Monsieur Nyaka Lagoké, bonjour.
Bonjour Eric.
Vous êtes citoyen de la Côte d'Ivoire, membre de la diaspora ici aux États-Unis, et vous êtes très actif sur le terrain panafricain, n'est-ce pas? On va parler de la Côte d'Ivoire, des perspectives pour 2020, une année qui commence avec beaucoup de rebonds en ce moment.
Oui, en effet, avec les rumeurs de déstabilisation qui viendraient de ce régime contre le régime, c'est à cela que vous faites allusion.
Ce n'est plus une rumeur parce que le procureur de la République a confirmé l'information.
Okay.
Il y a aussi un mandat d'arrêt international qui a été lancé.
Okay.
Ce n'est plus une rumeur.
Bien sûr, ce n'est plus une rumeur. Comme nous n'avons pas tous les éléments, voilà, donc j'étais en train de parler de la dimension factuelle des informations que nous recevons. C'est pour cela que j'utilise ce mot. Mais effectivement, vous avez raison, ce n'est plus une rumeur.
Est-ce que c'est un rebondissement pour vous dans les perspectives de votre pays?
Non, ce n'est pas un rebondissement. C'est des choses que...
Une tache d'huile.
Voilà, non, c'est des choses que... On voyait cela venir. Voilà, on voyait cela venir. On sait depuis au moins 3 ans que Soro Guillaume, l'ancien leader de la rébellion, qu'il a mené au nom d'Alassane Dramane Ouattara, n'était plus en odeur de sainteté avec Alassane Dramane Ouattara, qui est connu en Côte d'Ivoire et partout comme le père de la rébellion de 2002, qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire et qui était tenu par un bon nombre de gens du Nord. Sur la base du fait qu'il y avait une petite rivalité contre Alassane Dramane Ouattara et contre les gens du Nord, alors que on le sait, de nombreux cas du Nord ont fait cette politique, cette guerre ou ce coup d'État, parce que ils voulaient promouvoir une certaine idéologie nordiste appelée la Charte du Nord, qui aujourd'hui est mise en exécution en Côte d'Ivoire avec la promotion dans tous les secteurs d'activité des cadres du Nord et des origines du Nord.
Mais vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez affirmer cela?
Oh non, M. Ouattara lui-même l'a dit, que quand Gbagbo était président, les gens du Nord, qui représentent 40% de la population, étaient exclus. Donc c'est tout à fait... C'est lui-même qui a utilisé l'expression de rattrapage ethnique, ce n'est pas moi. Donc c'est cela, c'est ça. Et là, pour ce que je fais, donc on suit ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt d'intégration d'autres groupes
communautaires? Non, non, non. En Côte d'Ivoire, ce que le régime de M. Ouattara fait, ce n'est pas une question d'intégration. Ils ont dit qu'ils ont fait la lutte, c'était pour les gens du Nord, à qui on ne permettait pas de porter des boubous, qui étaient en train de subir certaines discriminations. Il y a eu des dérapages, il y a eu des tracassés administratifs contre les gens du Nord. Et M. Ouattara, lui-même, quand il était premier ministre de 90 à 93, lui-même, il a entretenu cela. Mais je crois que les compatriotes du Nord ont exagéré. Et que pour moi, ce n'était pas un combat qui devait être mené de cette façon. Et parce qu'ils avaient d'autres motifs. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, comme ça a été fait sur du faux, parce que c'est la réalité, ça a été fait sur du faux. Alors, quand on dit, par exemple, que les gens du Nord sont massacrés en Côte d'Ivoire, il y a eu des conflits, des gens meurent, des gens du Nord sont morts, des gens du Sud sont morts. Mais quand on dit seulement que c'est les gens du Nord qui sont massacrés parce qu'ils sont musulmans ou bien parce qu'ils sont du Nord, nous savions que le véritable motif, c'est qu'il y avait des cadres du Nord qui voulaient conquérir le pouvoir d'État parce qu'en ralliant des gens de leur groupe ethnique, et c'est ce qu'ils ont fait.
Parce qu'ils étaient exclus ou...
Non, c'est ce qu'ils disent. L'idée d'exclusion... Pour moi, c'est une expression de mauvaise foi. Parce que, en Côte d'Ivoire, la réalité, c'est quoi? Quand il faut gagner, le premier leader de la République de Côte d'Ivoire est devenu président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1980. Il était là pendant 33 ans. Il avait une conception ethnocentrique du pouvoir. En d'autres termes, il estimait que le pouvoir était dévolu, il devait appartenir aux gens qui sont atteints, particulièrement les Baoulis. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Et il faut gagner la paix. Et donc, l'alliance sur laquelle il s'est appuyé pour gérer son pouvoir d'État, il y avait une alliance parce qu'il avait eu une relation assez particulière avec le patriarche Gon, qui devrait, qui serait le père de l'actuel premier ministre de Alassane Draman Ouattara. Et donc, il y a eu donc cette alliance entre les gens du Nord et les Akans ou les Baoulés et les Agnés, tout cela. Et c'est sur cette base-là que Fofana a gouverné. Donc, quand nous étions en train de grandir, ce qu'on constatait, c'est que les gens du Nord, beaucoup étaient dans l'administration, en dehors du fait que c'était des gens qui étaient traditionnellement commerçants. Donc, ils étaient représentés dans beaucoup de secteurs d'activité. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans leur tête, c'est eux qui ont servi de béquilles d'origine de Baoulé d'Oufo-Boigny, mais qu'après Oufo-Boigny, c'était leur tour de gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, quand on était jeunes, c'est des choses
qu'on entendait. Il y a eu Bédier après.
Voilà, et Bédier et Baoulé. Bédier et Baoulé. Donc, 33 ans d'Oufo-Boigny, 6 ans de Bédier, ça fait près de 40 ans du règne Baoulé ou Akan en Côte d'Ivoire.
Et Gbagbo.
Et Gbagbo et Bédier. Et donc, au moment où les gens du Nord estimaient que, en fait, Ouattara, que leur tour était arrivé, et quand ils ont vu Alassane Draman Ouattara, tous les débats sur la nationalité d'Alassane Ouattara, c'est vrai, c'est faux, pour eux, c'était des débats secondaires. Pour eux, ils ont trouvé que c'était le champion par lequel ils pouvaient conquérir le pouvoir d'État. Tous les moyens étaient bons, dont un coup d'État, dont une guerre civile, dont l'alliance avec la communauté internationale, et pour ça, ce qui est arrivé. Quand je parle ainsi, je ne suis pas en train de dire que Gbagbo est neige, Gbagbo est blanc comme neige. Lui aussi, il a commis un certain nombre d'erreurs. L'une de ses erreurs, c'est de il n'a pas su mesurer la volonté des gens qui voulaient que Alassane Draman Ouattara soit candidat et qu'il est rentré dans ce discours sur l'égalité de façon publique pour courroucer ceux qui estimaient que le problème de Alassane Draman Ouattara n'était pas, sans assurer, n'était pas un problème important. Donc, comme il n'a pas pu créer les conditions pour résoudre, parce qu'il était le président Gbagbo, il n'a pas créé les conditions pour résoudre pacifiquement la question de la nationalité d'Alassane Draman Ouattara, et que cela entraîne les présidents d'Alassane Draman Ouattara à faire un coup d'état de ses transformations en guerre civile, lui aussi, il a sa part de responsabilité dans la crise.
Mais il n'a pas fait un coup d'état. Il y a eu
Gbagbo,
une rébellion.
Non, il y a eu un coup d'état, contre Gbagbo, il y a eu un coup d'état qui a échoué et qui s'est transformé en guerre civile, en rébellion. Maintenant, Bédier, lui, il y avait un coup d'État contre lui qui a réussi. Et donc, c'est comme ça que le 24 décembre, Bédier a été renversé par des gens qui étaient les partisans
de Robert Gueye.
Robert Gueye a été renversé par des militaires qui beaucoup se réclamaient de la chambre de Ouattara. Et c'est comme ça que Gueye est arrivé au pouvoir. Donc, voilà un peu, de façon historique, le décor. Et donc, maintenant, quand M. Ouattara arrive au pouvoir, les gens estiment que Soro Guillaume estime que bon, son temps est arrivé, qu'après avoir fait tout ce qu'il a fait, c'est lui qui doit être le successeur légitime de Alassane Draman Ouattara. Or, Alassane Draman Ouattara a un autre plan. Gon Coulibaly a pu jeter son homme de main. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est une guerre pour le pouvoir entre les gens du Nord qui pensaient qu'ils devaient créer une certaine union sacrée contre les gens du Sud pour conquérir le pouvoir au nom des gens du Nord pour les intérêts des gens du Nord. Donc aujourd'hui, bon, eux, entre eux-mêmes, ils sont en train de se battre. Et voilà ce qui est en train de se passer au moment où on est en train de rentrer dans l'année 2020.
Oui, on parle des perspectives pour 2020. Mmh. On sait que c'est l'année de la présidentielle et on sait que on veut être président ou redevenir président. Gbagbo, Bédier, Ouattara qui n'exclut pas de se représenter. Comment vous analysez tout ce cocktail de...
Oui, avant d'arriver sur le cocktail, là, tout à l'heure, en parlant du char du Nord de l'Ivalité, j'ai pas eu le temps d'expliquer que Henri Conan Bédier, c'est lui qui était le champ de l'Ivalité, qui l'a articulé parce qu'il voulait éliminer la femme de Ouattara, et c'est cela qui a exacerbé la crise en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, la crise que nous avons est une crise qui est profonde. Cela fait plus de 30 ans que trois acteurs majeurs dominent la réalité politique en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, 1990-91, il était déjà premier ministre. Gbagbo Laurent, qui, après avoir été leader de l'opposition et qui a émergé sur la scène politique en Côte d'Ivoire de façon publique 88-90. Et Henri Conan Bédier, qui était le président de l'Assemblée nationale et qui devait devenir président de la République de Côte d'Ivoire en 1993 à la mort de Félix Oufo-Boigny. Voici les trois. Chacune de ces trois personnes est devenue président. Mais sur la base des récriminations de chacun, pense que Bédier, 85 ans, pense qu'il veut devenir président. Les échos que nous entendons autour de Gbagbo Laurent, c'est que Gbagbo Laurent guette une opportunité de redevenir président. On apprend même que des gens quel que soit ce que la loi dirait sur la base de la conscience, que la femme Ouattara a cahier sur mesure pour écarter ce nombre de personnes, dont Gbagbo, déjà estime que Gbagbo Laurent pourrait être candidat en 2020. Et naturellement, à la femme Ouattara, qui au départ avait dit qu'il allait être président en Côte d'Ivoire seulement pour 5 ans, et qui à un moment donné a rempilé, et il a eu un deuxième mandat à la fin des deux mandats que lui confère la constitution, qu'il a changé pour la remplacer par une nouvelle constitution qui ne lui permet pas d'être candidat. Mais il estime dans sa lecture qu'il peut être candidat, ou Alassane Draman Ouattara, lui aussi, qui avait fait croire qu'il allait laisser le pouvoir à Madougon Koulibaly, Alassane Ouattara se bat pour un troisième mandat. Donc voici le décor. Donc tout cela ne fait qu'accroître les tensions. Et c'est comme si on repart encore, ça va ressusciter les vieux démons de la division et de la violence. Et donc voilà un peu, voilà ce que je peux dire.
Il y a aussi Soro qui...
Non, j'arrive à ce niveau. J'arrive à ce niveau.
Pour l'instant, est exclu.
Voilà, donc il y avait... Voilà, d'abord les trois grands donc, qui dominent la vie politique en Côte d'Ivoire depuis au moins 30 ans. Et maintenant, il y a une nouvelle génération qui aspire à conquérir le pouvoir d'État. Donc, dans chaque parti politique, donc on voit, ils sont là. Dans le camp d'Alassane Draman Ouattara, il y a Amadou Gon Koulibaly, il y a Ahmed Bakayoko, et il y a Soro Guillaume aujourd'hui qui est en disgrâce et qui est en opposition ouverte contre Alassane Draman Ouattara. Dans le camp de Gbagbo, il y a certainement Blé Goudé qui est à l'étranger, et Simone Gbagbo qui est sorti de prison, qui est en Côte d'Ivoire, et puis, naturellement, dans le camp de Bédié, on a Jean-Louis Billon, on a bien certain nombre de personnes. Maintenant, dans ce décor, le cas Soro devient un cas particulièrement intéressant. Leader de la rébellion, premier ministre, président de l'Assemblée nationale.
C'est d'ailleurs confirmé par une bataille médiatique.
Voilà, et qui Abidjan, qui bénéficie d'une certaine renommée, et qui aujourd'hui est entré dans une opposition ouverte contre Alassane Draman Ouattara, parce que ce qu'il attendait de Alassane Draman Ouattara, il ne l'a pas reçu et il ne va pas le recevoir.
Et aussi perçu comme la seule personne à dégommer.
Oui, capable de dégommer Ouattara. Ouais. Voilà, capable de déboulonner Ouattara. Il est perçu par ce qu'on dit personne, en Côte d'Ivoire, comme la seule personne capable de déboulonner Ouattara. Dans la mesure où Ouattara a fragilisé l'opposition, et que Gbagbo est en exil, Blé Goudé est en exil, Simone Gbagbo est sortie de prison, elle ne peut pas circuler, à part les mythiques quelquefois ici et là, et l'opposition a du mal à s'organiser. Toute personne qui a une voix dissidente en Côte d'Ivoire, cette personne est contrainte à la prison, soit la personne est tuée. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont faites contre ce genre de personnes. Donc, dans ce décor-là, Soro Guillaume apparaît comme celui qui est capable de défier la Santana Ouattara. C'est dit là que les autres n'ont pas. Il a été leader de la rébellion. Donc, il y a des gens qui se réclament de lui, qui sont dans l'armée et qui sont des anciens rebelles, des militaires, des rebelles. Et donc, il aurait emmagasiné ou aurait caché des armes. Donc, toutes ces choses, ça fait que les nuages sont beaucoup plus grands sur l'élection de 2020 à cause de différents facteurs. D'abord, les trois leaders, voilà, et en plus, Soro Guillaume, et bon, maintenant, il y aura certainement d'autres inconnus qu'on ne connaît pas, avec d'autres inconnus, et voilà, dont on pourrait parler, quoi.
Oui, est-ce que c'est une situation qui peut déstabiliser la sécurité du pays?
Ah oui, bien sûr.
Cette histoire.
Oui, là, bien sûr, parce que, voilà, c'est pas ça qu'on a commencé. Bien sûr que, comme Soro Guillaume est accusé de vouloir renverser le régime de Alassane Draman Ouattara, et dans le temps, quand ils étaient dans la rébellion et tout, il se disait que quand quelqu'un est militaire, quand il est énervé et qu'il veut revendiquer, donc il le fait avec les armes. Donc c'est ce qu'on attendait d'eux. Voilà. Donc aujourd'hui, Soro Guillaume, son parcours est un parcours qui est assez intriguant, dans la mesure où il est condamné à être dans une logique de coup d'État, de coup d'État permanent. Il est condamné à être cette figure politique qui sera perçu comme un putschiste permanent. Là, il fallait faire un coup d'État contre Gbagbo au nom d'Alassane Draman Ouattara pour les gens du Nord, pour imposer la candidature d'Alassane Draman Ouattara. Ouattara est devenu candidat, a été candidat, il est devenu président. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume lui-même qui veut être candidat et sa candidature, selon toute vraisemblance, va être annulée par Alassane Draman Ouattara qui ne veut pas que Soro Guillaume soit candidat dans la mesure où il est en train de fragiliser l'électorat du Nord. Parce qu'il y a une bonne partie des gens du Nord, je ne dis pas la majorité, mais une bonne partie des gens du Nord qui se réclament en Soro Guillaume. Et j'en profite pour dire que Bédier, qui était dans une coalition gouvernementale avec Alassane Ouattara, n'est plus avec Alassane Ouattara. Donc, M. Alassane Ouattara a perdu du terrain et de deux gros piliers. Donc, dans cette ambiance-là, Soro a des difficultés pour se présenter comme un civil qui ne peut pas avoir recours à l'armée ou bien à la violence. Donc, voilà un peu le dilemme dans lequel il se trouve. Et donc, avec les rumeurs que nous attendons, en attendant de voir si, effectivement, il a fait un coup d'État, comme on le dit, parce que j'ai écouté l'audio, c'est sa voix, mais on va voir si c'était un élément de 2017 ou de 2019, mais tout montre que les gens de Ouattara estiment que Soro était sur le point de faire un coup d'État. Donc, comme aujourd'hui, Soro a des gens dans l'armée, et qu'il a encore des gens qui se réclament de lui, on estime qu'on pense qu'il va avoir une riposte, une réaction des gens de Soro, et que la réaction ne sera pas une réaction civile, que ça devrait être une réaction armée. Et s'il y a une réaction armée, il y a aussi des gens, beaucoup de personnes, de militaires qui ont été brimés et qui ne se réclament ni de Soro ni de la femme de Montréal qui sont dans l'armée, qui peuvent être aussi portés par un esprit républicain, et on ne sait pas ce qu'on sait pas où on va.
Mais il y a une manière de gérer cette histoire pour préserver cette accalmie qu'on voit.
Comment est-ce qu'on peut faire ça? Dans la mesure où, quand M. Alassane Ouattara a pris le pouvoir, on a estimé que M. Alassane avait, comme le premier magistrat de la République de Côte d'Ivoire, que M. Ouattara créerait les conditions pour qu'il y ait une véritable réconciliation. Cela n'a pas été fait. Gbagbo a été amené à la CPI, Blegoudi a été amené à la CPI, Madame Gbagbo a été emprisonnée. C'est seulement il y a 2 ans que Alassane Dramane Ouattara a libéré près de 800 prisonniers. Lui qui disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Plus de 800. Et qui ont d'ailleurs été remplacés par un certain nombre de personnes qui s'opposent encore à son régime. Voici l'environnement. Donc, c'est un régime qui est liberticide. Et donc, tous ceux qui vont s'opposer au régime d'Alassane Ouattara et à son idée d'avoir un troisième mandat, son régime va s'attaquer à ces personnes-là. So, ce qui arrive à Soro, les gens de Gbagbo le vivent depuis 10 ans. Et donc, les gens de Bédier, certains d'entre eux ont vécu cela aujourd'hui. Comme Soro semble être celui qui essaie de le défier, donc Soro, vrai ou faux, Soro devrait subir le foudre du régime de la femme de Ouattara parce que Ouattara ne veut pas d'opposition. Et comme je l'ai dit déjà dans une interview ou dans d'autres interviews, M. Ouattara ne peut pas gouverner dans un environnement démocratique. C'est ça sa nature. Il ne peut pas gouverner dans un environnement démocratique.
Mais vous êtes en colère contre M. Ouattara?
Non, c'est pas une colère. Oui. C'est pas, non, c'est même pas. C'est-à-dire que si je devais être en colère, c'est contre eux tous. À commencer par Ouattara, Soro, même Gbagbo, Bédier. Parce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si des gens qui ont un impact aussi important sur la vie d'une nation sont incapables de s'asseoir eux tous pour dire comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un agenda commun, prendre des décisions communes et collectives dans l'intérêt supérieur de la nation. Ils en sont incapables. Et qu'une personne qui pense qu'elle a le pouvoir veut utiliser de la malice pour pouvoir perdurer à la tête de la Côte d'Ivoire et mettre les gens dans un système d'ostracisme. Donc, c'est des choses qui sont un peu, qui je n'arrive pas à comprendre. Mais actuellement, Gbagbo, je pense que il a connu une expérience dans sa vie qui vont l'amener certainement à tirer les leçons de ses choix et de son parcours. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est le premier magistrat de la République de Côte d'Ivoire. Tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire depuis 2011, depuis qu'il est devenu le président effectif de la Côte d'Ivoire, le 21 mai 2011, c'est de la responsabilité première de M. Alassane Dramane Ouattara, qui est le premier magistrat de la République de Côte d'Ivoire. Il ne pourrait pas partager cette responsabilité historique-là, ni avec Gbagbo Laurent, qui est en prison à la CPI, ni avec...
Il est sorti de prison,
il est sorti de prison, mais selon les éléments que nous avons, on ne voit pas M. Alassane Dramane Ouattara engager des discussions franches avec Gbagbo par rapport au destin de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, quand on parle de Soro, c'est parce que M. Ouattara veut avoir un troisième mandat que Soro est dans cette condition, il est dans cet état.
Justement, le scénario de 2020, au cas où Ouattara devient candidat pour se succéder à lui-même, qu'est-ce qui risque de se passer s'il se retire qu'est-ce qui risque de se passer?
Oui, selon ce qu'on a appris, il y a deux possibilités. Un troisième mandat, soit il neutralise Soro, il neutralise Didier. Gbagbo est maintenu en Europe, Brigoudé ne peut pas rentrer, et Simon Gbagbo ne peut pas le défier, donc il peut décider, au dernier moment, de laisser la place à Gon Coulibaly, après avoir fait un travail de nettoyage. Ou bien, selon ce qu'on voit, il va être candidat, et puis en utilisant ce qu'on attend, les différentes pièces d'identité qu'on donne à des gens qui viennent de différentes régions, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, bien qu'ayant perdu le soutien d'un certain nombre de ses alliés, dont Bédié et Soro Guillaume, Monsieur Alassane Dramane Ouattara peut être candidat. Maintenant, s'il est candidat, il y a deux ou trois possibilités. La première, sa répression est tellement forte et puissante que les Ivoiriens le regardent, et puis il va aux élections, et qu'il pourrait être boycotté par un certain nombre de personnes, et il devient président, et il cherche à gouverner la Côte d'Ivoire au-delà de 2020. Ou encore, le génie populaire de la Côte d'Ivoire pourrait avoir raison de lui. De quoi je parle? Oufo Boigny a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 33 ans. Quand nous étions jeunes, quand on parlait de liberté en Côte d'Ivoire, des gens estimaient que Oufo était tellement puissant que rien ne pouvait lui arriver. Et puis, j'étais étudiant en année de maîtrise, une affaire de beurre ou de margarine au campus universitaire, et c'était comme ça que le 19 février, à 8 jours après la libération de Nelson Mandela, qui avait passé 27 ans en prison, les étudiants ivoiriens ont commencé un mouvement de révolte. C'est notre mouvement de révolte-là qui a contribué à amener le multipartisme en Côte d'Ivoire, là où les babous, nos aînés, étaient en train de lutter pour le multipartisme. Ils avaient leur parti politique clandestin. C'est le mouvement estudiantin de 90 là, qui a mené des différentes couches socio-professionnelles en Côte d'Ivoire à s'impliquer dans une révolte populaire. C'est comme ça que le 30 avril 1990, là, il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc ça, là, ça fait partie de la réalité politique de Côte d'Ivoire. M. Ouattara peut avoir le sentiment qu'il peut brûler, réprimer tout le monde, mais il suffit d'une petite étincelle, comme ça s'est passé en Tunisie, ça s'est passé au Burkina Faso. Donc ça là, je pense qu'à tout moment, il peut avoir cette révolte populaire, et contrairement à tout quoi, ça peut arriver avant les élections, ça peut arriver autour des élections, ça peut arriver juste après les élections, et ça peut arriver dans la première année de son troisième mandat. Donc ça aussi, ça fait partie de la réalité politique en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce qu'il fait, comme le dit aux États-Unis, est évidemment sustainable. Ce n'est pas quelque chose de durable. La preuve, après tout ce qu'il a fait, Bédié n'est plus avec lui. Et Pampela, Soro Guillaume n'est plus avec lui. Et on a appris qu'il y a des militaires soupçonnés d'être proches de Soro qui sont en train de déserter l'armée. Jusqu'à où cela va continuer. Donc voilà aussi ce qu'il faut savoir quand on parle de la situation politique en Côte d'Ivoire.
Il y a moyen de gérer la situation et éviter.
Non, c'est comme je dis.
De retomber.
Comme je le dis, c'est lui seul qui peut régler ce problème.
Qui a la clé.
C'est lui seul. Là, il faut que cela soit clair.
Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter de retomber dans la catastrophe?
Ok. Je vais le voir.
Si vous étiez président de Côte d'Ivoire en ce moment.
Non, si j'étais président,
qu'est-ce que vous feriez?
Oh, ok. Si moi j'étais président de Côte d'Ivoire à la place de M. Alassane Dramane Ouattara et que j'ai fait mes 9 ans ou 10 ans au pouvoir, les gens ne sont pas satisfaits de mon bilan économique et social en dehors des routes que j'ai pu construire, des bâtiments ici, et que voilà ce que je ferais. Deux possibilités. Comment créer les conditions d'une paix durable? Je vais appeler Bédié, je vais appeler Gbagbo. Donc les trois là, on va se rencontrer. Si la rencontre doit avoir lieu en Belgique, je vais être en Belgique. Et puis, Bédié vient, je rencontre Gbagbo. Si je suis président, c'est ce que je ferai. Voilà, on a fait ce qu'on a fait 30 ans, chacun de nous est devenu président. Toi, je te reproche ici, tu me reproches là. On se reproche ici, cela. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour que notre génération, là, nous qui avons contribué à ce qui est la guerre, comment est-ce qu'on fait pour que demain, les gens se souviennent de nous comme des gens qui ont négocié un tournant important dans la vie de notre nation. S'il y a une décision collective à prendre, pour que je ne veux pas être candidat, les autres là ne vont pas être candidats, donc on se met d'accord qu'à l'issue de la rencontre, nous trois là, on dit qu'on n'est plus candidat et qu'on va se retirer. Puis s'ils sont d'accord, parce qu'il faut les convaincre, donc ça là, ça peut prendre des jours de négociation. S'il y a des compensations à faire pour les uns et les autres, on se met d'accord. Ça, c'est quelque chose que je peux faire. Deuxième élément, dans mon camp, j'aurais rassemblé les gens de mon camp pour leur dire, bon, on arrive à un point aujourd'hui où s'il y a des primaires, il y a ceci, cela, c'est compliqué. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de créer un cadre où chacun peut avoir ce qu'il veut, contenter Soro, contenter Gon Coulibaly, parce que leur bagarre, là, ça va avoir un impact sur la sécurité du pays. Donc ça, on peut aussi avoir ce genre de conversation. Troisièmement, maintenant, s'il y a une loi d'amnistie à prendre, pour s'il y a des compensations à faire pour des gens qui sont morts ou de tout cela, l'État de la Côte d'Ivoire a suffisamment d'argent. Donc, voici autant de musique, on le fait. Mais pour que quelqu'un puisse faire cela, le leader devrait avoir une dimension, une âme sacrificielle. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses pas pour ses intérêts personnels. Bon, or ça, c'est ce que nous n'avons pas vu. Donc, moi, c'est ce que je ferais si j'étais à la place de M. Alassane Draman Ouattara. Et ne pas forcément m'entêter à être président pour un troisième mandat. Parce que si je cherche à avoir un troisième mandat, je vais chercher à avoir un quatrième mandat. Voilà, parce que ce qu'il n'a pas pu faire en 10 ans, là, il ne pourra pas le faire dans les 10 prochaines années. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Mais malheureusement, je ne suis pas lui.
Voilà, il faut lui donner le bénéfice du doute.
Non, je ne suis pas lui et je ne suis pas dans cette condition. Et nous n'avons pas les mêmes âmes, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et la vision que j'ai, c'est une vision panafricaniste qui ferait la Côte d'Ivoire une nation multiculturelle, le microcosme des États-Unis d'Afrique. Donc par rapport à cela, on doit avoir une vision qui transcende nos égos personnels. Et actuellement, ce n'est pas ce qu'on voit avec nos dirigeants.
Monsieur Yaka, merci beaucoup de cet entretien.
Merci beaucoup, Eric.